Bonjour à tous. Alors, le psaume 2. Psaume 2, Église évangélique de Villars, dimanche 22 mai 2022. Que de deux, n'est-ce pas? Alors, je vous promets que ce n'était pas voulu. Est-ce que la date du dimanche 28 novembre 2021 vous rappelle quelque chose? Sans doute pas grand-chose, à moi non plus. Si ce n'est que ce dimanche-là, j'avais dû parler, et j'avais parlé sur le psaume 1. Alors, quoi de plus naturel aujourd'hui que de parler du psaume 2, tout simplement. Voici, alors j'espère y arriver. Oups. Normalement, on pèse sur le bouton de droite et la suite vient. Pardon? Non, parce que je veux la suite. Mais elle n'est pas là, la suite. Écoute. Écoute. Je ne sais pas. Ah, voilà. Merci beaucoup. Merci. Comme disait Charles Daniel Maire, une fois, qui était agent de la Ligue en Afrique, il disait, avec toute cette technique, c'est magnifique, mais dès qu'on a un problème, on est perdu. Alors, il n'avait pas tout tort, il préférait les cailloux. Alors, quel est l'ordre du jour? Eh bien, nous allons voir le psaume 2, un psaume messianique, les circonstances liées à sa rédaction, la composition du psaume, et puis ensuite la compréhension du psaume, la période intertestamentaire, et aujourd'hui, et dans le Nouveau Testament. Et finalement, se poser la question, en quoi est-ce que ce psaume peut m'interpeller? Psaume messianique. Que veut dire messianique? Alors, pour ceux qui sont nés entre deux pages de Bible, vous pouvez dormir pendant 2 minutes. Monsieur de la Palisse l'aurait dit, messianique vient sans doute du mot messie. Mais que veut dire messie? Viviane m'a autorisé à parler de ce psaume 2. Et vous saurez que pendant les mois d'été, nous parlerons des psaumes messianiques. Et ça, c'est un petit peu une introduction à l'été, bien en avant, c'est vrai. Le mot messianique, comme par hasard, vient du mot « messie ». Mais « messie » est une translation et pas une traduction du mot hébreu « mashiach », dont la racine signifie « peindre ». Peindre. Mais c'est étonnant, n'est-ce pas? Même en hébreu moderne, la pâte dentifrice se dit « mashrit shinaim ». En quelque sorte, des dons messianiques, un tout petit peu. Alors, le grec l'a traduit avec le mot « Christos ». Et ça, c'est une traduction. Dans l'Ancien Testament, quelques personnes ou groupes de personnes ont été oints d'huile. Parce que c'est cela qu'on aboutit finalement avec cette question de Messie, être oint, c'est-à-dire être consacré. Ces personnes recevaient donc un statut particulier qui les distinguait de la masse générale. Dans l'Ancien Testament, sauf erreur, le premier à avoir été oint d'huile a été Aaron, le frère de Moïse, dans le désert. Il a été oint comme grand prêtre parmi le peuple d'Israël. Puis plus tard, les rois ont été oints. Ça a été le cas de Saül, de David, et puis des autres. Et même Élisée, le prophète, a été oint d'huile aussi. Et puis, ce qui est plus étonnant, il y a un païen qui est mentionné comme ayant été reconnu comme Messie. Je ne sais pas s'il était oint, mais c'était Cyrus. Cyrus en Ésaïe 45. Alors, pourquoi parler d'un psaume messianique? Parce qu'à la limite, tous les psaumes sont plus ou moins messianiques. Si je parle du psaume 23, « L'Éternel est mon berger », eh bien, dans Jean 10, 11, « Je suis le bon berger », dit Jésus. Ou bien, psaume 119, verset 105, ça c'était le verset de la Ligue, « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier ». En Jean 8, 12, Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres ». Mais voilà, il y a un certain nombre de psaumes dans la parole qui sont vraiment beaucoup plus centrés sur la notion du Messie, pour nous, Jésus-Christ. C'est une sorte de prophétie qu'on trouve dans la parole. Alors, pourquoi est-ce que ces textes sont importants pour nous? Eh bien, il n'y a pas d'enseignement doctrinal directement dans l'Ancien Testament. On trouve beaucoup de réflexions parmi les psaumes, énormément, mais on n'a pas un enseignement comme Paul va le faire, par exemple, dans les Romains ou bien avec les Galates. Et pourtant, il y a tout un substrat qui est dans l'Ancien Testament, dans les psaumes en particulier, qui combiné entre eux et avec des textes du Nouveau Testament nous donne une base de réflexion solide. Et tel est le psaume 2. Alors, venons-en un peu à ce psaume 2. Avant de le lire, j'aimerais rappeler deux expressions du psaume 1. Verset 1, il commençait, et c'est l'entrée dans les psaumes, « heureux » ou « bienheureux » ou « en marche », avait dit Chouraki. « Heureux l'homme ou la femme qui ne marche pas selon le conseil des méchants », etc. Et puis il se termine par ces mots, « car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des méchants mène au vide, au néant, à la perdition. » Alors, « heureux » et néant, retenez ces deux expressions. Nous allons lire le psaume 2. Dans un premier temps, nous nous concentrerons sur le psaume 2 lui-même, et puis nous verrons les conséquences dans le Nouveau Testament. Je lis, j'espère que c'est assez grand. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Les rois de la terre se dressent, les princes se liguent ensemble contre l'Éternel et contre son oint, son Messie. Brisons leurs liens et rejetons loin de nous leurs chaînes. Il rit, celui qui siège dans les cieux. Le Seigneur se moque d'eux. Il leur parle dans sa colère et dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret de l'Éternel. Il m'a dit, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage et pour possession les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer, comme la face d'un potier, tu les mettras en pièces. Et maintenant, roi, ayez du discernement. Recevez l'instruction, juge de la terre. Servez l'Éternel avec crainte. Soyez dans l'allégresse en tremblant. Embrassez le Fils, de peur qu'il ne se mette en colère et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se réfugient en lui. » Vous remarquez le début. Pourquoi les nations s'agitent-elles et les peuples ont-ils de vaines pensées? Le psaume 1 se terminait par le vain. Se détourner de Dieu, c'est être dans le vin. Et se termine par cet heureux, alors que le psaume 1 commençait par heureux. On comprend qu'il y a une sorte de continuité entre les deux psaumes. Ils ne sont pas tout à fait identiques, mais dans la pensée, il y a un développement, on peut dire, de l'un à l'autre. Du reste, dans certaines traductions, le psaume 2 est resté le psaume 1 en deux parties. Ce psaume est très important pour nous. Dans quelles circonstances a-t-il été écrit? Et cela est déterminant. 2 Samuel 7. Cette nuit-là, la parole du Seigneur parvint à Nathan. « Va dire à David, mon serviteur, ainsi parle le Seigneur, est-ce toi qui me bâtiras une maison pour que j'y habite ?» Parce que David habitait maintenant à Jérusalem. Il avait construit un palais pour lui. Et là, à côté, il y avait la tente, qui était vraisemblablement la tente du tabernacle. Et puis Dieu habitait la tente du tabernacle. Et pour David, c'était un problème. Moi, j'habite une maison, une grande maison, et puis Dieu, il est dans cette espèce de tente. Alors, il en a parlé à Nathan. Puis Nathan lui a dit, « Oui, fais ce qui te paraît juste. » Mais voilà, Dieu est intervenu et a parlé à Nathan qui devait en parler à David. Et voici ses paroles. « Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, c'est-à-dire que tu seras décédé, je susciterai après toi ta descendance. Celui qui sera sorti de toi, et j'affermirai son règne. C'est lui qui bâtira une maison pour mon nom, et j'affermirai pour toujours son trône royal. Moi, je serai son père, et lui, il sera mon fils. S'il commet des fautes, je le châtierai avec le bâton des hommes, avec les coups des humains. Mais ma fidélité ne lui sera pas retirée, comme je l'ai retirée à Saül quand je l'ai écarté devant toi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés devant toi, ton trône pour toujours affermi. On se rend compte qu'il y a là des promesses qui sont incroyables. Si on pense que ça a été écrit 1000 ans environ avant que vienne Jésus, qu'il apparaisse, il y a des choses qui sont absolument extraordinaires là-dedans. Alors, venons un tout petit peu sur la structure de ce psaume. Il y a 4 parties. Tout d'abord, beaucoup d'agitation. Pourquoi les nations s'agitent-elles, etc. J'ai repris le texte sur la droite, donc je n'ai pas le répéter, vous pouvez suivre en même temps. 4 catégories de personnes sont mentionnées. Tout d'abord, il y a les nations, les goyim. Vous avez peut-être entendu cette expression si vous avez été en Israël, les goyim. C'est des gens, d'une façon générale, ce sont les peuples, une masse indistincte. Chez les Juifs, actuellement, un goy, c'est quelqu'un, peut-être un tout petit peu de second ordre. En tout cas, il ne fait pas partie du peuple de Dieu. Et qu'est-ce qu'ils font, ces peuples? Ils s'agitent un peu comme les vagues de la mer. C'est des foules bruyantes et tumultueuses qui manifestent, qui viennent. Bon, c'est ce qu'on voit aussi à la télévision aujourd'hui, rien de nouveau. Et puis, il y a les peuples, les léumim, des gens rassemblés qui ont une pensée commune. Ils murmurent à voix basse, comme dans le psaume 2, dans le psaume 1. Mais le texte ici parle de méditation vaine, sans substance, de belles idéologies de toutes couleurs et de toutes fantaisies. Mais ils ne se reposent pas sur Dieu et sont vaines. Il y a les rois de la terre, ceux qui ont le pouvoir politique, financier ou autre. Il est dit qu'ils se dressent fermement et de toute leur hauteur. Nous, on est intouchables. On a. Et puis, il y a les princes, un mot peu fréquent dans l'Ancien Testament, qu'on pourrait peut-être mieux traduire par les décideurs, les faiseurs d'opinion, les leaders. Et tout cela, ils s'assemblent pour quoi ? C'est l'insurrection. Ils s'assemblent pour délibérer contre l'Éternel et contre son Messie. Il n'est pas dit contre Dieu. Dieu est un terme assez général, mais contre l'Éternel, celui qui s'est révélé au Sinaï, c'est le Yahvé qu'on connaît, celui qui s'est révélé à Moïse, le Seigneur de gloire et de miséricorde. Et puis, il se aussi contre son oint, contre son Messie, alors que Dieu a dit « je l'ai oint » là-dessus, mais on s'élève là contre. Pourquoi ? La question du premier verset revient. Violente, rompre, briser les liens, rejeter les entraves, bref, se débarrasser de tout ce qui fait obstacle à la réalisation de leurs objectifs, de ce qu'ils veulent, un monde sans Dieu, avec des majuscules. Tout cela est hélas bien connu, puis aujourd'hui, les choses n'ont peut-être pas beaucoup changé. Mais dans la foulée de ce texte, on pourrait se poser la question. Je ne vais pas y répondre, je pose simplement la question. Tous les ismes que nous connaissons, le christianisme, communisme, socialisme, etc. Ou bien tous les mouvements par rapport au climat, défendre le climat, mouvement paisible, mouvement violent. Ou bien toutes les réflexions par rapport à la nourriture, ce qui est vegan, végétarien, etc. Et d'autres choses ainsi, elles ne sont peut-être pas mauvaises en soi, c'est peut-être neutre. Mais est-ce que ça trouve sa source en Dieu? Peut-être oui, puis peut-être pas forcément. Enfin, il y a beaucoup de choses là derrière. Ça sera un sujet, en fait, à aborder peut-être dans la lumière de ce qu'on y a. Mais ce n'est pas mon but ce matin. Nous parlons de ce psaume qui a été écrit très longtemps avant notre ère. La suite, la réponse de Dieu, la voix de la dérision, les versets 4 à 6. J'avoue que lire ce texte m'a fait du bien, mais qu'il m'a surpris aussi. L'Éternel est dans les cieux et il rit. J'aimerais pas entendre tellement ce rire de Dieu. Parce que c'est un rire glaçant. Il se moque, Dieu, de toute cette prétention. Et si moi j'étais à la place de Dieu, sans doute que j'aurais une réaction assez différente. J'aurais claqué la porte et je me serais retiré chez moi. Ils ont qu'à se débrouiller. Eh bien, il n'en est pas ainsi de Dieu. Il est dit que Dieu parle dans sa colère, mais il parle. Il est dit, il n'est pas écrit simplement qu'il dit simplement comme ça, non, il parle. Et dans le mot « parler », on trouve la notion du dialogue. Dieu attend à quelque part une réponse. Et ça fait 3000 ans qu'il attend cette réponse. Ça fait déjà un bout de temps, on a de la patience. Mais Dieu parle, et dans le parler, il y a toujours l'ouverture possible, l'ouverture de l'entretien, de s'entendre les uns les autres. Même s'il est en colère, c'est la voix du dialogue qui s'élève. Il laisse un espace ouvert au changement et peut-être à une réconciliation. Et que dit Dieu ? On peut penser qu'il leur dirait, il leur parlerait dans sa colère, ça serait la vindicte des reproches, mais nous trouvons une suite d'affirmations catégoriques. Dieu dit, mais moi, je établis mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Dieu s'affirme donc tel qu'il est, maître du monde, maître de toutes choses. On peut parler avec lui, entrer en dialogue, mais il ne va pas se laisser démonter parce qu'il peut y avoir comme agitation, est-ce que les gens vont pouvoir aimer. Du reste, ce « je » de Dieu, quatre fois répété, rappelle cette intensité, mais Dieu n'est pas un bloc de béton qui se laisse, qui a pris une décision et c'est fini, on ne se laisse pas fléchir. Juste pour rappel, en Genèse 18, c'est l'intercession d'Abraham envers Dieu qui dit « je vais détruire Sodome et Gomorre ». Et puis Abraham intervient, « mais s'il y a 50 justes, tu ne vas quand même pas les punir avec les autres ». 50, c'est peut-être un peu haut. Ben, si c'est 40, puis Dieu dit, s'il y en a 40, oui, je les pardonnerai. Puis s'il y en a 30, ben oui, je serai d'accord. Puis même 20, enfin, on voit cette intercession d'Abraham envers Dieu, et Dieu chaque fois répond, je ne ferai pas, j'épargnerai, je pardonnerai. Finalement, on vient à 10, et puis vient le jugement, parce qu'il n'y avait même pas 10 qui étaient comptés juste là-dedans. Il est question de la montagne de Sion. Sion, bien sûr, ce n'est pas Valère et Tourbillon, hein, en Valais, bien sûr, mais c'est cette colline de Jérusalem dont on ne sait pas très bien où elle est aujourd'hui, en fait. C'est la colline de la grâce, en quelque sorte. Dans le psaume, dans Hébreux 12, nous lisons sur la montagne de Sion, et là, la montagne, elle est mise en contraste avec le mont Sinaï. La montagne de Sion, vous vous êtes approchés, dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux, aux croyants, vous vous êtes approchés de la montagne de Sion et de la cité du Dieu vivant, la Jérusalem céleste, de dizaines de milliers d'anges, de la réunion et de l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux, de Dieu juge de tous, des esprits des justes portés à leur accomplissement, de Jésus, le médiateur d'une alliance nouvelle, et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. On n'a pas le temps d'entrer dans tous les détails de ce verset, c'est pas ça, mais on voit le rôle que Dieu donne à la montagne de Sion, montagne de la paix, montagne de la réconciliation. Et nous passons à la suite des trois versets suivants, la voix du Fils, la voix de la déclaration. La voix du décret de Dieu, tout d'abord, c'est gravé. C'est le mot hébreu, c'est gravé, comme dans une pierre. La même chose que les 10 paroles au Sinaï, elles ont été gravées dans la pierre. Et ici, il y a une parole de Dieu qui est gravée. Donc, elle ne va pas partir comme cela. Et qu'est-ce qu'il dit ? Tu es mon fils. Tu es mon fils. Dans l'idée du fils, on retrouve l'idée de la construction. Le mot hébreu, boné, veut dire construire. Et c'est de la même racine. C'est sur le Fils que va se construire la suite, que va se construire l'histoire que Dieu a prévue. On se rend compte, il y a là 3000 ans en arrière, 1000 ans avant Jésus-Christ, des détails qui laissent comprendre que Dieu va intervenir d'une façon particulière, mais il ne dit pas comment. Pourtant, ce fils dont il est question là, c'était David et ses descendants. Ce n'était pas la perfection, mais enfin, Dieu a quand même promis quelque chose. Filiation et construction. On peut noter que ce titre de fils, il est porté d'une part par Israël en Exode. Dieu dit à Pharaon, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. En Osée 2, j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. Mais on voit qu'ici que Dieu établit une relation particulière entre lui et le roi d'Israël, sans pour autant que le roi soit divinisé, comme on le trouve dans certaines civilisations. Le roi d'Israël n'a jamais été une sorte de Dieu, il est resté un homme, comme tous les autres, sans culte ni adoration. Cette première déclaration, « Tu es mon fils », est doublée d'une deuxième déclaration, « Je t'ai aujourd'hui engendré ». Parole mystérieuse. Parole par laquelle Dieu, en quelque sorte, se lie et se substitue à l'être humain pour dire « Ce « oin », ce « Messie », il est de moi. » Il y a cette promesse dans les deux derniers versets, promesse surprenante. « Mais demande-moi, je te donnerai les nations pour héritage et pour possession, les extrémités de la terre. » Comment est-ce que le roi d'Israël pouvait imaginer d'être régné sur la terre? Et là aussi, on sent qu'il y a des paroles qui sont là, qui sont interpellantes et que les gens ont dû avoir de la peine à comprendre à l'époque. Quelque chose de magnifique. Le dernier verset, on va le retrouver dans l'Apocalypse. Un peu transformé. Il étonne peut-être. On est dans l'Ancien Testament, rappelons-nous. Et puis vient la quatrième partie, la voix de l'esprit, voix de la réflexion. Tout d'abord, la réponse aux dirigeants, « Mais réfléchissez, ayez du discernement, recevez l'instruction. » Et puis la parole aux juges, aux leaders peut-être. Ils veulent rejeter l'enseignement, l'instruction, rejetons leurs liens. Et Dieu leur dit, mais ayez du discernement, recevez l'instruction, juge de la terre, un appel à la raison. Et puis il y a encore ce passage étonnant, embrasser le Fils. Embrasser ou donner un baiser. En fait, le sens est faire acte d'allégeance de soumission. Si le mot utilisé pour fils est différent de celui du ben, qu'on disait tout à l'heure, de la construction, c'est plutôt un mot araméen qu'on va trouver que deux fois dans l'Ancien Testament. On le trouvera souvent dans le Nouveau Testament, par exemple dans Barabbas, Barnabé, Bartimée, etc. Il définit bien le fils. Mais il a une autre signification aussi, c'est la pureté. Bar, pur. Et ça, on le retrouve beaucoup de fois dans l'Ancien Testament. Donc, l'idée générale, elle est embrassez, soumettez-vous au Fils en toute sincérité. Le danger de se perdre, qui est déjà abordé à la fin du psaume 1, est bien présent. Décidez-vous sans tarder. À la lecture de ce psaume, on a peut-être l'impression que rien n'a changé. Alors notre réponse devrait être d'intercéder pour les peuples, les dirigeants qui mènent le monde au néant, que Dieu ait pitié d'eux et de nous. Venons-en sur la compréhension du psaume et surtout sur cette période intertestamentaire. Les Juifs lisaient ce psaume. Il n'a pas disparu de leur Bible. Mais quand ils la lisaient, se sont posés bien des questions. Parce que les rois n'ont pas été à la hauteur de ce qu'on imaginait. Vous vous rappelez tous les conflits qu'il y a eu, l'exil, ils sont disparus, ensuite ils sont revenus. Donc beaucoup de questions sont posées. Alors, est-ce que ce psaume doit être encore valable, oui ou non? Au 1er siècle avant notre ère, on trouve une citation, pardon, je suis un tout petit peu trop rapide, dans des psaumes dits de Salomon, c'est des textes qu'on n'a pas dans nos Bibles. Ils sont rattachés au mouvement pharisien. On lit par exemple ceci. Ils supplient Dieu de susciter au moment qu'il sait le roi, fils de David, qui règnera sur Israël, selon le psaume 2. Mais il sera saint de force par Dieu. Il purifiera Jérusalem des nations qui la foulent, c'est-à-dire les Grecs et les Romains. Il en chassera les pécheurs qu'il brisera de son sceptre de fer comme un vase de potier. On entend un petit écho, n'est-ce pas, dans les disciples d'Emmaüs. Nous espérions que celui-ci était celui qui délivrerait Israël. Vous vous rappelez ce texte peut-être. Donc, à Qumran, aussi, dans les manuscrits de la Mer Morte, on a retrouvé des indications. Alors, on est ici beaucoup dans le politique. On attend quelqu'un, l'attend du Messie, qui, selon l'oracle de Nathan du tout à l'heure, délivrera les justes attachés à la loi, les délivrera du joug des nations. Et de façon étonnante, à côté du Messie roi, il doit y avoir un Messie prêtre. Donc deux Messies devraient apparaître, en fait. Mais le Messie prêtre aura la préséance sur l'autre. Alors, dans le judaïsme moderne, simplement, qu'en est-il ? Est-ce qu'on lit encore le psaume 2 ? Oui. Et les juifs orthodoxes, et qui sont traditionnalistes, attendent à leur façon le Messie. Je cite ici un texte, j'ai trouvé sur Internet, qui est attribué aux juifs dits progressistes, essentiellement ceux qu'on trouve aux États-Unis. Ces mouvements reconstructionnistes et réformés ont pour différentes raisons rejeté le concept de Messie, bien que certains croient au temps messianique, non pas au sens eschatologique de ce qui doit venir, comme le comprennent les orthodoxes, mais au sens d'une utopie, c'est-à-dire la représentation d'une société idéale qui est opposée aux sociétés réelles imparfaites, utopie à laquelle tous les juifs sont obligés de concourir, substituant ainsi à l'attitude jugée attentiste des orthodoxes une attitude active et réaliste. La Shoah a laissé des traces profondes. Et pour nous, compréhension du psaume, qu'en est-il dans le Nouveau Testament ? Et pour moi, c'est là qu'est le plus important. Une première question qui va peut-être vous choquer, mais je vous la pose quand même, je l'ai posée ici. Qu'est-ce qui justifie que Jésus soit qualifié de Messie ? On a lu que les personnes, pour être désignées Messie, devaient être ointes. Une exception peut-être si plus. Donc, ointes de quelque chose. Est-ce qu'on lit à quelque part dans le Nouveau Testament que Jésus a été oint d'huile ? C'est intéressant d'en parler. On ne le lit pas. On ne lit pas ce texte-là. Jésus n'a jamais revendiqué le titre de Messie. Ce sont d'autres qui l'ont fait pour lui et Jésus ne l'a pas contesté. Il préférait l'expression « fils de l'homme ». On lit dans les Actes des Apôtres, au chapitre 2, verset 36, « Que toute la maison d'Israël, c'est Pierre qui parle, sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Messie, le Jésus que vous avez crucifié. » Et le message des apôtres, d'Apollos, de Luc et d'autres, a été de démontrer par les Écritures que Jésus est le Christ, c'est-à-dire l'Ancien Testament, que Jésus est le Christ. Dans ce contexte, le psaume 2 joue un rôle de premier plan, bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il en est de cette onction de Jésus ? On va se tourner vers le Nouveau Testament et dans les Évangiles. Dans l'Évangile de Marc, tout d'abord, au chapitre 1, au baptême de Jésus, commencement de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, fils de Dieu. C'est le premier verset. Pour verset 9, « En ces jours-là, Jésus vint de Nazareth de Galilée et il reçut de Jean le baptême dans le Jourdain. Dès qu'il remonta de l'eau, il vit les cieux se déchirer et l'Esprit descendre sur lui comme une colombe. Et une voix survint des cieux, « Tu es mon fils bien-aimé, c'est en toi que j'ai pris plaisir. » La voix s'adresse directement à Jésus. C'est à ce moment-là que Jésus a reçu son onction. Parce que l'huile est un symbole. L'huile en tant que telle, ce n'était pas le plus important. Elle était ce qu'elle représentait, c'est-à-dire ce baptême de l'Esprit. Et à ce moment-là, Jésus reçoit ce baptême immatériel et il est consacré comme Messie. Il a ajouté aussi celui en qui Dieu prend plaisir, serviteur, allusion à Ésaïe 42, « Voici mon serviteur que je soutiens, celui que je choisis, que j'agrée. J'ai mis mon souffle, mon esprit sur lui. » Et puis il y a un deuxième élément, celui de la transfiguration dans Marc 9, 11. « Survint une nuée qui les couvrit de son ombre, et de la voix de la nuée sortit une voix, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Écoutez-le. » Deuxième témoignage de Dieu. Une fois, c'était directement, et les gens l'ont entendu, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Et là, il y avait trois disciples qui étaient là, mais ils l'ont entendu, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Écoutez-le. Dans les deux cas, cette parole de filiation se rapporte au psaume 2, verset 7 qu'on a lu. « Tu es mon fils. » Et Dieu le reconnaît. « Tu es mon fils. » Il ajoute « bien-aimé ». Ce terme « bien-aimé », on peut l'imaginer, on chantait tout à l'heure, il était question de Jésus, le nom bien-aimé, ou quelque chose comme ça. Mais il y a une signification particulière que l'on trouve dans l'Ancien Testament, à différentes occasions. Et il a une connotation triste. Il est en rapport avec la mort d'un enfant, du fils ou d'une fille. On va le retrouver dans quelques passages, en particulier dans Genèse 22. Vous vous rappelez peut-être la ligature, le sacrifice d'Isaac. Et Abraham est invité à aller offrir son fils en sacrifice à Dieu. Et dans l'intérieur d'Abraham s'est déroulé un drame aussi épouvantable que pour Isaac, finalement. Est-ce qu'il va être sacrifié? Au dernier moment, Dieu intervient, mais l'Épître aux Hébreux nous dit qu'Abraham l'a reçu comme une résurrection. Intérieurement, Abraham était prêt à renoncer à ce fils. Et lorsque Dieu dit, là, ces deux fois, au baptême de Jésus, à la transfiguration, il dit « Celui-ci est mon fils bien-aimé ». Bien, Dieu exprime ce qu'on trouve dans l'Ancien Testament, cette chose presque humaine de son attachement énorme pour Jésus, ce fils qui était sien. C'est presque des sentiments humains ou surhumains peut-être que Dieu exprime à ce moment-là. Ce fils bien-aimé est déjà là, se pose Golgotha en arrière-plan. Le sacrifice, il est là. Donc, ce n'est pas une question d'affection uniquement, mais dès le départ de la vie de Jésus, on voit elle est orientée du côté de la croix. Et puis, dans les Épîtres, il y a aussi des citations de ce psaume 2. Je cite quelques textes, parce que je ne vais pas les prendre tous, ça serait beaucoup trop. Dans Acte 13, il est dit « La promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en relevant Jésus, selon ce qu'il est écrit au psaume 2e. « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Et puis, un texte très intéressant, voyons, où es-tu? Ah, voilà. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 1, verset 4, il est question ici de l'intronisation de Jésus comme fils de Dieu, à l'instar de l'onction des rois. Jésus-Christ, notre Seigneur, institué fils de Dieu avec puissance, selon l'esprit de sainteté, du fait de sa résurrection d'entre les morts. Donc on a quelque chose qui est excessivement profond là derrière. La résurrection, en quelque sorte, intronise Jésus comme fils de Dieu. Et puis, il y a dans l'Épître aux Hébreux, ce verset qui est très important pour introduire la notion de fils par rapport aux anges, par rapport aux grands prêtres, par rapport à tout ce que vous pouvez imaginer. Dieu autrefois a parlé à nos pères par les prophètes. En ces jours qui sont les derniers, il nous a parlé par un fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Puis au verset 5, « Auquel des anges a-t-il jamais dit, tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui ?» Et encore, « Moi, je serai pour lui un père, lui sera pour moi un fils. » De même, le Christ ne s'est pas octroyé à lui-même la gloire de devenir grand prêtre. Il a reçu de celui qui lui a dit, « Tu es mon fils, c'est moi qui t'ai engendré aujourd'hui. » Et finalement, dans l'Apocalypse, il y a de nombreuses références dans ce psaume 2. Il y en a beaucoup trop pour qu'on les cite toutes. Je veux quand même en lire une qui rappelle la fin de la deuxième partie du chapitre 2, du psaume 2, verset 9. De sa bouche sort une épée acérée avec laquelle il doit frapper les nations. Faites attention au texte, c'est lui qui les fera paître. Que disait le texte du psaume? Il disait, il va les briser comme un vase de potier. Dans le texte, qui est la traduction des Septante, il les fera paître. Donc la notion de mener les gens comme un berger. Il les fera paître avec un cerf de fer. On pourrait citer encore bien d'autres textes. Il y en a quand même un que j'aimerais signaler dans la question, est-ce que ce psaume me concerne, moi, aujourd'hui? Alors, psaume 2, verset 11, disait, « Soyez dans l'allégresse en tremblant. » Alors, c'est une traduction, il y en a d'autres. En Philippiens 2, 12, Paul va dire, « Mettez votre salut en œuvre avec humilité et avec respect. » Et c'est la même idée qui est traduite avec d'autres mots. Et ça, c'est un texte parmi d'autres. On trouve plusieurs fois cette référence, et ça n'a pas changé. Par rapport à Dieu, avec humilité et avec respect. Et puis voilà pour moi ce qui est, je dirais, l'apothéose peut-être de ce psaume dans le Nouveau Testament, Apocalypse 3, 21. À Laodicée, pour la petite histoire, Laodicée était une des sept églises mentionnées au début de l'Apocalypse. Et Laodicée était la pire des églises, tout simplement. Et à la fin, Dieu va dire « changez ». Changer radicalement. Je me tiens à la porte et je frappe. Et il dit, le vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi, comme moi-même j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Ici, on a une conjonction de deux versets, tirés de deux psaumes, psaume 2 et psaume 110, qu'on verra cet été aussi, autre psaume messianique. Il est question du Fils qui siège à la droite de Dieu. Et si on y réfléchit, frères et sœurs, c'est quelque chose qui est incroyable qui est noté là-dedans. Ces textes vieux de plus de 3000 ans, qui avaient vu Jésus, le Fils de Dieu, ils nous rejoignent, nous aussi, aujourd'hui, maintenant. Celui qui est vainqueur, vous et moi, dans notre vie et par rapport au Seigneur, dans notre quotidien d'ici-bas, unis à Jésus-Christ, ils rejaillissent jusque dans la vie éternelle. Psaume 2, écrit à 3000 ans, il rejaillit pour nous qui nous embarque dans la vie éternelle. Au vainqueur, je lui donnerai de s'asseoir avec moi sur mon trône, que moi-même j'ai été vainqueur et je me suis assis avec mon Père sur son trône, englobé en Jésus, face au Père. Ce n'est pas une promesse extraordinaire. Bienheureux, heureux, tous ceux dont le Seigneur est un refuge. Amen.